Nous allons continuer à parler d'amour. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 18 à 24. Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, c'est celle du Père qui m'a envoyé. Un peu plus loin, au chapitre 15, les versets 4 et 5. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Et enfin, les versets 9 à 10, chapitre 15. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aimais, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Lors de l'Assemblée Générale, cet après-midi, nous allons faire le point sur la vie d'Église et notamment sur ce qui a été fait en 2019 et ce qui pourrait être fait en 2020. Quand on lit l'Évangile, et notamment les textes que j'ai lus, on se rend compte que la question de l'agir, du faire, n'est pas si simple. Les textes que nous avons lus lient ensemble d'une façon radicale l'obéissance à Jésus d'une part, l'amour pour Jésus et la communion d'amour avec lui d'autre part. Seul celui qui aime Jésus garde ses commandements. Seul celui qui garde les commandements de Jésus demeure réellement dans son amour. Vous avez lu ça comme moi ? Et donc le fondement de l'agir du disciple, c'est l'amour pour son maître. Et une relation de communion qui dure dans le temps, ce que l'évangéliste appelle « demeurer dans son amour ». Ce qui est vrai pour le disciple est tout aussi vrai pour la communauté chrétienne. Jésus, dans le texte, prépare ses disciples à son départ. Il arrivera un moment où ils ne le verront plus, après sa résurrection et son ascension. Mais il dit aussi, verset 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Puis Jésus enseigne sur la façon d'être en lien avec lui, même une fois qu'il sera parti auprès du Père. Et il rebondit sur la question qui lui est posée, comment se fait-il que les disciples le rencontreront, resteront en communion avec lui et non pas le monde. Cette façon d'être en lien avec lui, même sans le voir, c'est de l'aimer et de faire sa volonté. Les deux choses étant inséparables. L'amour ici n'a rien de très sentimental ou d'affectif. Cet amour est simplement connoté à une seule chose, au fait de faire sa volonté. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Voilà deux phrases très claires. Et je me suis dit, on peut faire des choses que nous voulons pour Dieu. Des choses qui correspondent à notre compréhension de ce que Dieu nous demande. À partir d'une culture évangélique, d'une bonne éthique chrétienne. On peut faire des choses pour Jésus, à partir d'une foi profonde, qu'on a une expérience de foi profonde, et une conversion réelle. Mais seuls ceux qui aiment Jésus gardent réellement sa parole et demeurent réellement dans son amour. Il ne s'agit pas d'obéissance au sens classique du terme, comme quand un officier parle à un soldat. Quand j'aime Jésus, je partage ses préoccupations pour la construction de l'Église. Je partage son souci que l'Évangile soit proclamé, que la volonté de Dieu soit faite. Ma volonté entre et s'associe d'une certaine manière à la volonté du Christ. Et ça, c'est de l'amour. Plus qu'être obéissant, il y a le fait d'être associé à Jésus, d'être son disciple et d'être son partenaire, puisqu'il m'envoie, il nous envoie en tant qu'Église et en tant que personne dans ce monde. C'est en vivant cela que nous sommes les amis de Jésus, comme il le dira au chapitre 15. Nous ne sommes pas dans une obéissance que nous demandons de bénir, nous sommes dans une communion de désir avec Jésus. Communion de désir que l'Évangile soit annoncé, que des personnes se convertissent, que l'Église grandisse, que les disciples avancent sur le chemin étroit. Nous sommes habités par ces désirs-là, parce qu'ils sont les désirs du Christ, et que parce que nous aimons le Christ, ces désirs deviennent les nôtres. Cette communion de désirs, elle ne tombe pas du ciel, elle se développe petit à petit quand nous demeurons dans son amour à lui. Quand nous continuons à vivre de sa grâce, à nous nourrir et à nous fortifier dans la certitude de son amour pour nous. Et que, petit à petit, nous comprenons mieux sa bienveillance pour nous et pour le monde. Cette expérience de demeurer dans l'amour me fait mieux connaître, comme on dit aujourd'hui, le cœur de Jésus et du Père. Il s'agit, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, d'être plus capable de comprendre avec tous les saints et la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance. Et par ce moyen-là, d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Demeurer dans son amour, et en retour, apprendre à l'aimer. Aimer ce Jésus qui est venu dans ce monde pour servir. Qui s'est dépouillé de sa gloire, pour réellement nous rencontrer. Qui est venu, non pas pour se faire du bien, mais avec une mission orientée vers d'autres personnes. D'abord le Père, puisqu'il vient pour mieux faire connaître le Père. Et aussi orienté envers nous, puisqu'il vient porter les conséquences du péché, du monde et de mon péché. Qu'il vient pour guérir, pour relever, pour bénir, pour sauver. Et qui pour cela va jusqu'à la mort. Voilà un type épatant quand même. Ce Jésus pris aux tripes devant la souffrance des gens. Ce Jésus qui ne respecte pas les règles sociales qui séparent et qui discriminent entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, les bons croyants, les gens de mauvaise vie, les juifs et les non-juifs. Ce Jésus aussi à l'aise dans la maison d'un pharisien qu'autour de la table avec des pécheurs publics. À l'aise avec des lépreux ou avec une femme qui perd son sang. Autant qu'avec des personnes en pleine forme. Apprendre à aimer ce Jésus, aux prises avec la perspective de la mort et de la souffrance qui lutte contre une angoisse abominable, qui lutte contre la tentation de se protéger et de prendre un chemin plus confortable que celui que Dieu a choisi pour lui. Ce Jésus-là, nous devons apprendre à l'aimer, et malheureusement, il y a une façon de croire qui réduit Jésus à être juste un article de foi. Un article de foi central, hein, puisqu'il est celui qui est mort pour nos péchés sur la croix. Et qu'il est indispensable de mettre notre confiance en lui pour être sauvé. Mais on peut croire cela de tout son cœur, et en même temps, Jésus n'est pas vraiment une personne humaine qui a vécu comme nous, parmi nous. Nous avons besoin de cultiver une relation avec Jésus telle que les évangiles nous en parlent. Et de l'accueillir comme un être humain. De le reconnaître comme un être humain qui s'est dépouillé pour vivre comme nous. Si nous ne croyons pas que Jésus a vécu comme nous, si nous ne croyons pas que sa vie s'est passée dans le dépouillement de la puissance que sa divinité pouvait lui donner, alors nous passons à côté de quelque chose d'essentiel de la foi. Et si nous ne croyons pas ça, alors Jésus, c'est compliqué pour nous d'aimer Jésus, parce qu'il est trop différent de nous. Il est trop différent. Nous avons réalisé que Jésus s'est dépouillé de sa divinité, de la gloire liée à sa divinité, qu'il a vécu rigoureusement comme nous, avec les mêmes besoins que nous, la faim, la soif, la solitude, le besoin d'amis, etc., etc. Si nous réalisons ça, et si nous le voyons en lisant les évangiles, alors nous pouvons apprendre à l'aimer réellement et plus fort, de manière plus authentique, et développer une communion avec lui. L'Écriture est très claire là-dessus. Jésus a vécu rigoureusement comme nous, sauf le péché. C'est pourquoi il peut nous aider. Parce qu'il sait ce qu'on nous passe. Il a été tenté comme nous, dit l'Épître aux Hébreux. Il a fait des choix pour Dieu. D'autres étaient possibles. Il a persévéré alors que c'était compliqué. Et surtout, il a manifesté une attitude d'ouverture, de bienveillance et d'amour incroyable pour tous ceux qu'il a rencontrés. Nous avons besoin de connaître ce Jésus-là et de laisser grandir en nous, en réponse à sa façon d'être et à son enseignement, un amour qui vient du plus profond de notre cœur. Sinon, Jésus risque d'être juste un article central de notre confession de foi et de nos cantiques. Mais quelque chose va manquer. Et cet amour, il grandit aussi dans la façon dont nous le prenons au sérieux. Et dont nous prenons au sérieux sa parole. Si nous aimons Jésus, sa parole prend pour nous une importance toute particulière et unique par rapport à toutes les autres paroles, et même par rapport au reste de la Bible, d'une certaine manière. Puisqu'il est lui au cœur, le cœur de la Bible et la révélation dernière de Dieu, la révélation ultime. Ce qu'il dit nous sert à comprendre et à interpréter tout le reste de l'Écriture. Et Jésus réclame de nous une écoute particulière. Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci ou cela, mais moi je vous dis autre chose. Et c'est vrai pour notre culture, en Lorraine, ce qu'on a appris de nos parents, ou en Alsace, on a appris des choses qui ont structuré notre manière de voir le monde et de nous situer dans ce monde. Et c'est aussi par rapport à ça que Jésus vient en disant, tu as entendu ça, et ça, et ça, mais moi je te dis autre chose. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus, et donc de lire et d'accueillir ses paroles d'une manière toute particulière. Y compris en prenant en pleine figure certaines paroles comme « ne s'inquiéter de rien ». Facile à dire, hein ? Facile à dire. Mais on vit dans un monde qui parfois nous stresse, dans des circonstances qui nous stressent. Peut-être qu'on a un tempérament stressé, ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ou ailleurs, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Je travaille dans les conflits, je peux vous dire que il n'y en a pas tellement qui arrivent à aimer leurs ennemis quand ils sont en conflit avec. Hein. Alors, on peut se dire, et l'Église l'a dit au fil du temps, certains l'ont dit, c'est un truc qui n'est pas possible, ce sera au ciel. Ou alors c'est pour nous montrer qu'on est tellement pécheurs qu'on n'y arrive pas et il faut qu'on se convertisse. Mais ça ne marche pas comme ça dans le texte, si nous sommes honnêtes. Jésus demande ça à ses disciples. C'est pas possible. Sauf que c'est Jésus qui le dit. Vous voyez ? Quand nous aimons Jésus, nous nous disons, mais c'est lui qui le dit. Ça serait un autre, je ferme les oreilles très vite. Mais là, c'est lui qui le dit. Et ça règle rien, mais ça change tout. Ça règle rien, mais ça change tout. Parce que il nous est impossible, si nous voulons être honnêtes, de ne pas prendre ses paroles au sérieux. Et je me rappelle assez bien du moment où j'ai compris qu'il fallait que je le prenne au sérieux. Et du début de ce chemin parfois compliqué qui m'a amené à m'intéresser aux relations humaines, surtout quand c'était compliqué, et personnellement à me former à la médiation et à découvrir ce qu'on appelle la non-violence. Parce qu'il y avait une parole de Jésus qui me disait d'aimer mes ennemis. Et il ne s'agit pas de dire oui, je le fais dans la seconde, parce que ça ne marche pas. Ni j'oublie rapidement cette parole, heureusement qu'il y aura une prédication dimanche prochain qui me fera oublier celle-ci. Il s'agit d'entrer sur un chemin. Et de se rendre compte de tout ce qui en nous résiste à cette parole de Jésus, comme à d'autres paroles. Et de voir comment on fait face à nos propres résistances. Et quel chemin nous pouvons trouver dans la prière, dans la persévérance. Quel chemin Jésus ouvre devant nous. C'est... faut croire, hein. C'est une question de confiance et de foi, que c'est possible. Ce que Jésus nous demande, il peut nous permettre de le vivre. Il est capable. Alors le chemin risque d'être compliqué, hein. Il risque de remettre en question des tas de choses. Mais il y a un chemin. Et ce chemin-là, si nous n'aimons pas vraiment Jésus, ça va être difficile. Si nous l'aimons, ça va être un peu plus facile. Quelques réflexions, encore, un dernier point. Pour faire sa volonté, pour l'aimer et faire sa volonté, les deux vont ensemble, eh bien, c'est clair qu'il faut nous décentrer de nous-mêmes, de ce que nous désirons, de ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons, pour entrer dans la volonté du Christ. On ne peut pas faire les deux en même temps, à fond. Il faut prendre soin de soi, ça c'est clair. Mais on ne peut pas suivre ses propres rêves s'ils ne sont pas conformes à l'Évangile, et vouloir en même temps faire la volonté du Père et du Fils. C'est pourquoi la première chose que Jésus nous apprend, quand il apprend la prière à ses disciples, c'est de quoi ? C'est de se décentrer de nous pour nous centrer sur Dieu. Que ton nom soit sanctifié, et donc pas le mien. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, et non pas ce que moi j'ai envie. Ça la première chose de la prière, la toute première. Et si ça, c'est pas clair, ça devient compliqué de demander le reste. Vous voyez ? Si nous faisons cela, nous sommes des disciples. Si nous ne faisons pas et que nous prions le reste, nous sommes juste des clients qui demanderont des trucs, qui nous arrangent, nous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de prendre tout l'évangile et pas juste de sélectionner ce qui nous plaît. Et ça, c'est une tendance de fond du croyant qui est très visible dans l'Ancien Testament avec Israël, de sélectionner dans ce que Dieu dit certaines choses, pas trop compliquées ou qu'on aime bien faire, comme chanter par exemple. Ouais. Et puis, d'oublier le reste. Les prophètes se sont battus contre ce truc, et notamment en disant que les célébrations, les cultes, les sacrifices, tout était parfait. Il y avait des centaines de litres de sang qui coulaient, tout le monde était super bien habillé, la musique était excellente, mais tout le reste on oublie. Lisez Isaïe, lisez Jérémie, c'est de ça qu'il parle. On sélectionne. On ne peut pas tout prendre en même temps de la parole de ce que Jésus enseigne en bloc. On le fait pas après pas. Mais ne pas sélectionner et volontairement dire je veux tout prendre, c'est important. Tout prendre de ce que je comprends. Troisième point. L'amour, ça rend intelligent. Parce que le désir nous fait avancer. Le désir nous fait avancer. C'est pour ça que l'amour, c'est tellement important aussi. On fait des choses folles parfois pour ceux qu'on aime. L'amour donne du discernement, de la sagesse. Et pas toujours, évidemment, parfois on fait des folies, n'importe quoi, mais le vrai amour, celui qui est centré sur l'autre et pas seulement sur ce que l'autre m'apporte, il le rend intelligent, il donne de la sagesse, il donne du discernement. C'est aussi une des raisons, pour moi, une des raisons pour laquelle Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il fera ma volonté. » Parce qu'il va comprendre mieux quelle est cette volonté. Parce que l'amour va lui donner du discernement par rapport à cette volonté. Bien, il est temps de conclure. Je vais conclure par un exemple concret. Nous connaissons tous l'histoire du reniement de Pierre, n'est-ce pas ? Eh bien, le rétablissement de Pierre ne va pas passer par une longue prière de repentance, ni par le fait qu'il rampe bien par terre. Tout va se passer à partir d'une question fondamentale. Vous la connaissez, cette question ? Que Jésus répète trois fois. C'est une histoire intéressante. Parce que Jésus dit « Simon, fils de Jonas ». Et Simon, fils de Jonas, c'était le nom de Pierre, c'était le nom de Pierre avant qu'il rencontre Jésus. Une fois que Jésus l'a rencontré, il lui dit « Maintenant, tu t'appelles Pierre ». Et comme il a renié Jésus, Jésus l'appelle par son vieux nom. Vous vous rappelez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il l'appelle par son vieux nom. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu ? Pierre n'a pas besoin de devenir un Superman qui résiste à toutes les tentations. Il n'a pas besoin d'être un super-héros. Mais une chose doit être claire pour qu'il puisse être réintégré dans sa mission. C'est l'amour pour Jésus. Et quand il dit « Oui, tu sais que je t'aime », Jésus lui répond à chaque fois « Eh bien, occupe-toi de mes brebis ». Et donc c'est pas seulement une question, dans ce texte, c'est pas seulement une question est-ce que tu m'aimes, est-ce que ton cœur est chaud ou pas, non. C'est si tu m'aimes, tu peux me servir, vraiment. Si tu m'aimes, je peux te confier mon église, vous voyez. C'est ça qu'il y a dans le texte. Jésus trois fois lui dit « Rappelez mes brebis ». Simon Pierre, m'aimes-tu ? La même question nous est posé ce matin.